VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Nouvelle tractation à RDC après l'échec de la médiation des évêques catholiques. La SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, s'est invitée dans le processus visant à sortir le pays de la crise politique. Eddie Sango.
Les ministres des Affaires étrangères de la SADC ont entamé hier à Kinshasa les consultations avec les parties congolaises au dialogue. Après les représentants de la famille politique du président Joseph Kabila, ils ont reçu l'opposition. Mais la réunion avec les rassemblements a provoqué un incident qui a été vite résolu en fin de journée. La branche dirigée par Félix Tshisekedi a quitté les lieux, jugeant insultant que la SADC rencontre l'aile conduite par Joseph Olengankoy. C'est plus tard dans la soirée qu'ils ont été reçus. Pour eux, l'accord du 31 décembre doit être appliqué. Pour les autres, seule la question du président du Conseil des suivis de la transition et la signature des arrangements particuliers reste à résoudre. Deux jours plus tôt, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Sidiku, avait lui aussi lancé des bons offices.
Au Rwanda, un ancien chef de milice dans la province de Gisenyi, dans le nord-ouest du pays, condamné hier à la prison à vie par un tribunal de Kigali pour son implication dans le génocide de 1994. Le point avec Eric Manirakiza.
La haute cour à Kigali a déclaré coupable de crime de génocide Bernard Munyagishari et l'a condamné à la prison à perpétuité. Au moment des faits, il était président pour la préfecture de Gisenyi des extrémistes Hutu Interahamwe, fer de lance du génocide. Selon Emmanuel Itamwa, porte-parole des cours et tribunaux, il a 30 jours pour faire appel. Munyagishari était poursuivi pour des faits perpétrés dans la préfecture de Gisenyi, notamment au cimetière surnommé Commune Rouge, où les Tutsis étaient ensevelis dans des fosses communes. L'ex-chef de milice est le deuxième accusé du tribunal pénal international pour le Rwanda transféré à Kigali. Le pasteur pentecôtiste Jean Winghindi attend son jugement en appel. Il avait été condamné à la prison à vie en première instance. Le TPIR, qui était basé à Arusha en Tanzanie, a fermé ses portes fin 2015.
Au Cameroun, la connexion Internet a été rétablie jeudi dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest après 3 mois de suspension. La mesure avait été imposée suite aux manifestations et grèves générales des anglophones qui s'estiment marginalisés, certains réclamant le retour au fédéralisme ou même la sécession. Le ministre camerounais de la communication, Issa Bakary Tchiroma, situe ici les enjeux de cette normalisation.
L'arène sécessionniste n'existe plus. L'excitation et l'invitation à la violence, à l'insurrection, à l'incivisme, tout ça, ça a donc pratiquement disparu. Mais le chef de l'État instruit nos populations de demeurer vigilantes. Parce que dès lors que ces menaces pointent à nouveau à l'horizon, le gouvernement n'aura pas de choix. Au nom de la protection de l'intégrité physique de notre pays, de l'ordre établi, le gouvernement n'aura pas de choix que de revenir à nouveau sur la sécession de l'opérationnalisation de Internet. Quand on parle de la protection de l'intégrité physique, quand on parle de la protection de la paix, l'argent ne compte pas. L'argent ne compte pas parce que accumuler les milliards du monde entier, s'il n'y a pas consensus, si le peuple n'accepte pas, ces milliards n'auront servi à rien du tout. C'est vrai que la cessation du fonctionnement d'Internet a impacté l'économie, mais le gain en termes de protection de l'intégrité physique, de vouloir vivre ensemble, la paix et le retour à la normale sont de loin plus importants que les gains économiques.
Le ministre camerounais de la communication, Issa Bakary Tchiroma. Soudan du Sud maintenant, la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, va retirer son personnel de certaines zones frappées par la famine dans le pays. L'organisation prévoit aussi de recourir à des hélicoptères pour la livraison de l'aide humanitaire à cause de l'insécurité. Abdourahmane Dia.
La décision de la FAO de se retirer de certaines zones fait suite à l'assassinat de 3 travailleurs humanitaires la semaine dernière. Le Soudan du Sud fait face à une crise alimentaire sans précédent. Plus de 80 agents humanitaires ont été tués depuis le début de la guerre civile en 2013. La FAO a temporairement retiré 40% de son personnel de la région de Wao, au nord-ouest de la capitale. Pour amoindrir le risque pour ses employés, l'organisation veut recourir à des hélicoptères pour faire parvenir l'aide dans des zones touchées par la famine. famine. Cependant, cette méthode sera 10 fois plus coûteuse alors que l'ONU fait face à un manque criard de moyens pour financer ses activités. Un responsable onusien a même avoué qu'une absence du personnel sur le terrain affectera négativement les activités. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 Sud-Soudanais souffrent de famine et plus d'un million sont menacés à cause de la sécheresse et de la guerre civile.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nigeria, au moins 7 personnes tuées, 11 autres blessées par la chute d'un câble électrique alors qu'elle regardait jeudi soir un match de la Ligue des Champions à Calabar dans le sud du pays. C'est ce qu'a indiqué la police ce vendredi. L'accident s'est produit hier soir alors que des supporters du club anglais Manchester United et de son adversaire belge Anderlecht s'étaient rassemblés dans la rue pour regarder le quart de finale de la Ligue des Champions à la télévision. La lutte contre Boko Haram au Niger maintenant. Bosso a été la première ville du pays attaquée par le groupe islamiste nigérien en février 2015. Et en juin 2016, les combattants djihadistes ont même réussi à prendre Bosso à l'armée nigérienne. Un an plus tard, Nicolas Pino, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, s'est rendu sur place. La vie reprend à Bosso, situé à quelques kilomètres seulement de la frontière du Nigeria. Son reportage.
À l'entrée de la ville de Bosso, impossible de rater l'école ni les cris des enfants qui récitent leurs leçons. Depuis octobre dernier, 1000 écoliers ont repris les cours dans cette ville symbole de l'insurrection de Boko Haram depuis 2 ans au Niger. Madouka Mustapha est le directeur de l'école de Bosso. Il avoue être anxieux pour sa sécurité.
Parfois, si on entend certains rumeurs, on a peur vraiment. C'est notre région et c'est notre pays, on n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas dire que c'est facile. On n'est pas tellement sûr de nous, mais malgré tout ça, c'est de nos frères, c'est de nos enfants, donc on n'a pas de choix. On est obligé à les enseigner.
À quelques dizaines de mètres de l'école, le drapeau nigérien flotte dans la cour de la préfecture. Lamine Ousmane en est le secrétaire général depuis 5 ans. Il a connu les attaques de 2015 et 2016 sur la ville et les impacts de balles sont toujours visibles dans son bureau. Ce fonctionnaire apprécie l'amélioration de la sécurité.
Il est rare de passer 30 minutes à Bosso sans entendre le coup de fusil ou autre. Maintenant, les gens arrivent à baquer à leurs occupations. Les activités au niveau du lac, comme la culture du maïs et la pêche même à proprement parler, elle n'a pas repris. Parce que jusqu'à présent, la sécurité au niveau du lac, elle n'est pas tout à fait revenue. Quand les gens n'ont pas regagné leur village, leur site.
Le lac Tchad et ses îles, dernier repère de Boko Haram, c'est là que la force multirégionale traque les djihadistes qui avaient pris Bosso en juin 2016. Depuis cette attaque et la débâcle de l'armée nigérienne, des militaires tchadiens sont présents en nombre dans la ville. En coopération avec le Niger, ils sécurisent Bosso et permettent un semblant de retour à la normale. Au marché de Bosso, les activités ont repris, comme l'explique cette commerçante.
Ah, maintenant, il y a du mieux. Maintenant, ça dépasse avant là. Il n'y a pas de sécurité. Mais maintenant, là, il y a beaucoup de sécurité. Business, là, c'est le manque de rentrer dans le lac, c'est le manque de la mer. Moi, ça va.
L'interdiction de la pêche pèse toujours sur l'économie locale. Autre frein, elle les détourne pour se rendre au Nigeria. Impossible de gagner Malam Fatori, pourtant si proche. Pour traverser la frontière, il faut revenir sur Diffa puis se rendre vers Tamasak. Les réfugiés nigérians de Bosso espèrent rentrer chez eux, mais savent que tout sera à reconstruire dans leur village au Nigeria. Aladji Foukoutar est originaire de Malam Fatori.
Je suis retourné voir ce qui restait de nos affaires lorsque les Tchadiens sont entrés dans Malam Fatori. Tout est brûlé, il n'y a plus rien, nos maisons ont été détruites.
Les habitants rencontrés espèrent que la sécurisation de Bosso s'inscrira dans la durée et que la défaite totale de Boko Haram sera bientôt une réalité. Depuis Bosso au Niger, Nicolas Pino pour VOA Afrique.
Et vous terminez en France, à 2 jours du premier tour de la présidentielle, l'attaque sur les Champs-Élysées à Paris qui a coûté la vie jeudi soir à un policier a replacé les débats sur la lutte antiterroriste au cœur de l'élection. La fusillade revendiquée par le groupe État islamique à l'origine de la plupart des attentats qui ont fait 238 morts de plus dans le pays depuis 2015 a blessé 2 autres policiers et une touriste allemande. Près de 47 millions d'électeurs sont appelés à voter pour le premier tour le 23 avril et au second tour le 7 mai pour élire le nouveau président de la République française appelé à succéder au socialiste François Hollande. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.